Voici l'abécédaire de la der des der.
R comme réfugié climatique et réchauffement climatique. En mars 2012, la nouvelle tombe, à vous glacer les chines. Le Canada privé de hockey sur glace à cause du réchauffement climatique. C'est à peine croyable ça, ce genre de choses n'arrive donc pas que dans des pays avec un niveau très bas en dessous de la merde. Et pourtant, le hockey, sport national au pays des caribous, risque bien de ne plus pouvoir être pratiqué sur les patinoires extérieures dans le sud du pays. Et d'après une étude publiée par la revue environnementale Research Letters, des chercheurs des universités montréalaises McGill et Concordia affirment que ce phénomène va empirer au cours des décennies à venir. Leurs travaux ont montré que les patinoires du sud-ouest, des prairies et du centre du Canada voyaient leur durée de vie diminuer. Le nombre de jours qui sont suffisamment froids pour maintenir et réarroser une patinoire extérieure a changé au fil du temps, explique à l'AFP Damon Matthews, l'un des auteurs de cette étude. Cette tendance sur 50 ans est probablement due au réchauffement climatique, avance-t-il prudent. Dès 1950, la température aurait, d'après certaines études, augmenté de 2,5 degrés Celsius en hiver au Canada. La disparition des patinoires extérieures dans le sud du pays serait réellement à craindre. Des organisations écologistes organisent d'ailleurs chaque année depuis 2005 la journée « Sauvons le hockey, luttons contre les changements climatiques ». Si ça, c'est pas fédérateur. Mais derrière cette info presque triviale se cache une réalité bien plus grave, celle des réfugiés écologiques ou réfugiés climatiques. Tout d'abord, et contrairement à ce que les politiques veulent nous faire croire, les migrations actuelles sont loin d'atteindre l'ampleur de celles des deux siècles précédents. Les personnes résidant dans un autre pays que celui d'origine représentent aujourd'hui moins de 3% de la population mondiale, d'après l'Organisation internationale des migrations, soit 214 millions de personnes d'après les derniers chiffres de l'ONU. Cependant, il faut sans doute revoir ces chiffres à la hausse, car les migrants clandestins ne sont pas comptabilisés et représenteraient environ un quart des migrants internationaux. Et c'est là encore finalement peu, contrairement aux idées reçues qui veulent que la majorité de l'immigration se fasse illégalement. Autre idée reçue, les principales migrations de population se font à l'intérieur des pays, voire des continents, et pas forcément sur l'axe nord-sud. Tout ça pour en venir à ces réfugiés d'un nouveau genre, les réfugiés climatiques. Il et elle sont plus de 25 millions d'individus qui ont dû fuir leur pays à cause de bouleversements climatiques. Les réfugiés climatiques viennent principalement des régions du monde les plus affectées par les effets du réchauffement climatique, soit les pays d'Asie du Sud, Bangladesh, Sri Lanka, Inde, les pays d'Afrique et des îles Pacifiques. Le terme de « réfugié climatique » apparaît pour la première fois dans un rapport de 1985 du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il désigne les personnes condamnées à quitter leur pays d'origine suite à des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique, sécheresse, inondations, cyclones. Si les causes directes de ces mouvements de population sont d'origine naturelle, ces phénomènes, pris à l'échelle de la planète, sont bien le résultat de l'action humaine. Comme cela a été reconnu en juin 1992 à Rio de Janeiro, lors du deuxième sommet de la Terre. 170 pays ont alors signé le CNUC, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui reconnaît les causes d'origine humaine du réchauffement climatique et encourage les États à prendre des mesures de lutte contre ce phénomène. À l'heure actuelle, les principales causes des migrations environnementales sont la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique subsaharienne, où on estime qu'entre 1997 et 2020, quelques 60 millions de personnes devront quitter les zones désertifiées de cette région. Et sans oublier les inondations. Lorsque le réchauffement climatique se sera installé, ce qui va arriver, vu la mauvaise volonté des gouvernements et autres, près de 200 millions de personnes pourraient être affectées par les déséquilibres du système des moussons et d'autres régimes de précipitations, par des sécheresses d'une sévérité et d'une durée sans précédent, et par l'élévation du niveau de la mer et les inondations côtières. La montée globale des eaux, due au réchauffement climatique, a déjà un impact direct. Beaucoup d'atolls du Pacifique ont déjà disparu et des pays entiers sont menacés. En août 2005, la centaine d'habitants de Latte, un village dans l'archipel de Vanuatu, en Océanie, ont été les premiers au monde à être déplacés en raison du réchauffement climatique et de la montée des océans. Avant de devoir s'enfoncer dans les terres, les habitants de Latte avaient eu à faire face à des cyclones et à des grandes marées qui s'enchaînaient à une cadence inhabituelle, provoquant une forte érosion des terres côtières, notamment les violents cyclones Gavin, Ina et Kelly de 1997. La modeste barrière de corail de 1 mètre, dernière ligne de défense contre les flots, s'était elle aussi érodée. Les moustiques porteurs de diverses maladies prospéraient en raison des points d'eau stagnantes. En 2001, le gouvernement des îles Tuvalu a conclu un accord pour que les 11 636 habitants de ce micro-État soient progressivement accueillis par la Nouvelle-Zélande. Située dans l'océan Pacifique, à 3400 km au nord-est de l'Australie, Tuvalu est une nation composée de 8 minuscules atolls coralliens d'une superficie totale de 26 km². C'est l'un des pays les plus bas du monde, avec un sommet culminant à seulement 4,50 m au-dessus du niveau de la mer. L'eau de mer remonte par le sol et empêche les eaux de pluie de s'infiltrer. Les cocotiers subissent l'érosion, des îlots disparaissent. Et désormais, ses habitants ne peuvent plus cultiver la terre. Tuvalu est un pays trop pauvre pour imiter les Pays-Bas et installer des digues protectrices. Tuvalu va disparaître. Actuellement, c'est le président de l'État des îles Kiribati, Anote Tong, qui cherche activement une terre d'accueil pour ses 110 000 habitants. Il est en pourparler avec le gouvernement des îles Fidji pour acheter 2000 hectares de terre sur Vanua-Levu, la deuxième plus grande île des Fidji, située à plus de 2000 km. Si ce projet est réalisé, il s'agirait du premier État forcé à migrer dans son ensemble à cause du réchauffement climatique. Ce qui ne se fera pas sans mal, on l'imagine. D'ailleurs, le président Anote Tong insiste pour que ses concitoyens ainsi déplacés ne soient pas des citoyens de seconde classe. L'urgence est là. 32 îlots des Kiribati ont déjà disparu sous les eaux. Et après-demain, le Bangladesh, dont une partie du territoire se situe sous le niveau de la mer et qui est déjà fréquemment frappé par de violentes inondations, devrait s'attendre à une montée des eaux dans les années à venir et à des déplacements de population vers le nord. Selon le rapport 2001 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC, si les océans montaient de 1 mètre, ce qui pourrait arriver au siècle prochain, 30 000 km² du Bangladesh disparaîtraient sous les eaux, soit à peu près 20% du territoire. Et pour mieux comprendre ce phénomène d'élévation du niveau de la mer, allons voir du côté de Wikipédia. L'élévation du niveau de la mer, donc, peut être causée par des facteurs multiples et complexes qui résultent conjointement des effets des apports en eau, fonte des calottes glaciaires et des glaciers, de l'expansion thermique de l'eau sous l'effet de sa température et de la répartition des masses d'eau sous l'effet des grands courants et des vents. L'élévation n'est pas uniforme, elle varie selon les régions de l'océan. Selon la hauteur de la masse d'eau sous-jacente, la proximité par rapport à l'équateur, l'action des vents et des grands tourbillons, etc. Le niveau de la mer s'est élevé d'environ 120 mètres depuis le pic de la dernière glaciation il y a environ 18 000 ans. Depuis 3000 ans avant aujourd'hui, et ce jusqu'au début du 19e siècle, le niveau de la mer n'a pratiquement pas bougé, n'augmentant que de 0,1 à 0,2 mm par an. Depuis 1900, il augmente de 1 à 3 mm par an. Et depuis 1992, l'altimétrie mesurée à partir du satellite océanographique Topex Poséidon indique un taux d'élévation d'environ 3 mm par an. L'élévation du niveau de la mer peut être une conséquence du réchauffement climatique à travers deux processus principaux. La dilatation des masses d'eau, donc de la mer, puisque les océans se réchauffent, et la fonte des glaces terrestres. D'après le rapport du GIEC de 2007, l'élévation du niveau des mers d'ici 2100 pourrait être comprise entre 18 et 42 cm. En plus des archipels peu élevés du Pacifique et du Bangladesh, la montée du niveau des océans devrait menacer les grands deltas, comme celui du Mékong et celui du Nil, 70% de la côte nigériane, ainsi que de nombreuses mégapoles. Sur les 21 villes qui, en 2015, compteront plus de 10 millions d'habitants, 16 d'entre elles se situent en zone côtière. Effet ricochet de ce grignotage par la mer des terres immergées, la salinisation des terres arables et la pollution des nappes phréatiques. Le rapport du GIEC prévoit notamment une réduction générale des rendements agricoles et une diminution des disponibilités en eau dans certaines zones qui entraîneront des migrations forcées. Le 8 décembre 1997, l'ancien premier ministre de Tuvalu, Bikenibe Painu, a prononcé un discours à Kyoto dans le cadre de la Convention sur le changement climatique des Nations Unies concernant les difficultés auxquelles était confrontée Tuvalu en raison de la montée du niveau de la mer, des vents violents et de la fréquence croissante des cyclones, des inondations ou des raz-de-marée. Il a qualifié ces effets de quasi intolérables puisque la végétation, les récoltes et des villages entiers ont été détruits. D'où la mise en péril de la santé et de la vie même des habitants de l'île. D'ores et déjà, des millions de personnes ont été déplacées pour des raisons liées à l'environnement. Les inondations de 1998 en Chine ont donné lieu à des millions de sans-abri. La catastrophe de Tchernobyl a occasionné le déplacement de plus de 100 000 personnes. Les sécheresses d'Afrique ont fait fuir des centaines de milliers de personnes dans les pays voisins. Les barrages représentent une cause importante de déplacement. On estime que 40 à 80 millions de personnes ont été déplacées par la création de réservoirs depuis les dernières 50 années et plus d'un million par le barrage des Trois Gorges en Chine. Mais que dit la juridiction internationale concernant ces nouveaux réfugiés ? À ce jour, même si leur réalité est bien connue, il n'existe pas dans le droit international de statut juridique propre pour les réfugiés climatiques. Bon, bien sûr, chacun y va de sa commission pour participer à un ersatz de démocratie, de conférences internationales, en accords pas ratifiés et en sommet à sommant, mais quid de ceux et celles qui ont déjà les pieds dans l'eau ? En janvier 2009, 184 pays avaient ratifié le protocole de Kyoto, signé en 1997 à l'occasion de la troisième conférence annuelle de l'ACNUC. Au travers de cet accord international, 38 pays industrialisés, à l'exception notoire des États-Unis, s'étaient engagés à réduire de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 par rapport aux émissions enregistrées en 1990. Bien sûr, c'est raté. Arrivé à échéance, les États-Unis avaient signé, mais toujours pas ratifié le protocole, alors que le Canada s'était retiré du processus. Parmi les autres pays qui n'avaient pas ratifié ni signé le protocole, on trouve l'Andorre, la Palestine, l'Afghanistan, Taïwan ou encore le Vatican. Bon, si on peut comprendre que l'Afghanistan ait d'autres chats à fouetter, pour l'Andorre ou le Vatican, on voit pas bien. En mai 2009, près de 1500 personnes, États, ONU, ONG, participaient à la première conférence mondiale sur les océans qui se tenait à Manado, en Indonésie. Leur objectif ? Sensibiliser le monde sur l'impact du réchauffement climatique sur les océans. En marge de la conférence, l'AOSIS, ou l'Alliance des petits États insulaires, avait appelé les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 85% d'ici 2050 afin de prévenir l'exode potentiel de millions de réfugiés climatiques. Un chiffre bien supérieur aux engagements annoncés à ce jour par les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre. Engagements qui, de toute façon, ne sont pas tenus. Par contre, bien joué le coup de la taxe carbone, ça rapporte un max de billets verts. À ce propos, je vous conseille la lecture du petit livre « Ne soyons pas des écologistes benêts » de Aurélien Bernier, Michel Marchand et le MPEP. Les membres de la OSIS ont également participé à l'élaboration du protocole de Kyoto en tant que pays directement menacé par la montée des eaux, aux côtés également des Pays-Bas, des représentants de l'Union européenne et du G77, qui regroupe actuellement 132 pays en voie de développement. Face à eux, le bien nommé Carbon Club, regroupant le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des pays membres de l'OPEP, la Russie et la Norvège. Bref, principalement des pays extracteurs ou exportateurs d'hydrocarbures. En décembre 2009, lors du sommet des Nations Unies sur le climat qui se tenait à Copenhague, les 192 pays ayant ratifié la CNUC se sont réunis pour conclure un nouvel accord faisant suite à celui de Kyoto. Il s'agissait pour les gouvernements de s'entendre sur des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter le réchauffement climatique à 2 petits degrés Celsius d'ici à 2100. La majorité des scientifiques estiment en effet qu'au-delà de cette valeur, les conséquences du changement climatique seraient catastrophiques. Et c'est rien de le dire. Toutefois, les États participant à ce sommet n'ont pu définir aucun objectif commun en raison de certains désaccords opposant des groupes de pays. Les pays émergents, notamment Chine, Inde, Brésil et Russie, estiment nécessaire la lutte contre le réchauffement climatique. Néanmoins, ils considèrent que les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne doivent pas entraver leur développement économique basé sur une consommation énergétique croissante. La consommation énergétique par habitant était jusqu'ici très largement inférieure à celle des pays de l'OCDE. Et donc pour ces pays, l'augmentation des gaz à effet de serre résulte de l'activité antérieure des pays développés, et ceux-ci doivent donc en assurer la responsabilité. D'autre part, une partie de leur production est liée à la production de biens à destination des consommateurs des pays développés. La Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie souhaitent ainsi que les pays les plus développés les aident financièrement dans la lutte contre le changement climatique. Or, dans un contexte de crise économique, l'octroi d'aides destinées à lutter contre le réchauffement climatique n'est plus tout à fait la priorité des États les plus riches. Suite à cette conférence, qui fut un échec, les États ont dû remettre leurs engagements pour janvier 2012. Or, pendant ce temps-là, les émissions de gaz à effet de serre ont tellement augmenté qu'on ne peut plus aujourd'hui envisager une limitation du réchauffement à seulement 2 degrés Celsius. Et de report en négociations stériles, on arrive en 2012. Le sommet de Rio vient de se clôturer sur un quasi-échec lui aussi, alors qu'il était censé renouveler les engagements pris par les États signataires lors du sommet de Kyoto. Le fameux, ou on pourrait dire fumeux, protocole qui arrive à son terme cette année donc. Allez, pour rire, on écoute un bilan du sommet de Rio.
Une nouvelle conférence Rio plus 20 qui s'achève, avec à la fois une déclaration qui est assez complète, mais qui est assez tiède en même temps, avec un certain nombre de résultats néanmoins intéressants, et des perspectives de négociation qui s'ouvrent, notamment dans le domaine de l'environnement, sur les océans, et sur tous les points importants, désertification, climat, biodiversité, tout est en quelque sorte noté, mais il n'y a pas vraiment de grande poussée. En revanche, il y a des décisions importantes sur aller au-delà du PIB, avec un mandat donné aux Nations Unies pour faire des propositions aux États. Il y a une grande stratégie d'emploi sur les jeunes avec l'économie verte, donc l'économie verte est en quelque sorte promue. Il y a le renforcement du programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est pas tout à fait ce que voulaient beaucoup de pays, mais enfin, la porte n'est pas totalement fermée, mais il y a un renforcement extrêmement important donc sur les politiques de l'environnement.
Discours de Brice Lalonde. Plouf plouf, mais si le sommet de Rio a pris l'eau alors que les accords du protocole de Kyoto arrivent à terme, on est foutu alors ? Les écologistes bien pensants, les gouvernements qui se teignent en vert, les ONG, l'ONU, tout ça, ils peuvent rien faire. On va donc devoir le faire nous-mêmes, le changement ?
We'll be right back.
Revenons maintenant sur la question du statut des réfugiés climatiques, qui, à défaut de juridiction, ont une définition. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a défini les réfugiés environnementaux comme des personnes forcées à quitter leurs habitations d'une façon temporaire ou permanente à cause d'une dégradation nette de leur environnement, soit d'origine humaine ou naturelle, qui bouleverse gravement leur cadre de vie et ou qui déséquilibre sérieusement leur qualité de vie. Les causes de leur migration sont multiples, on l'a vu. Inondations, dégradation des sols, catastrophes naturelles, déforestation, construction de grands barrages ou accidents industriels. Actuellement, les réfugiés écologiques ne sont pas reconnus par le droit international. En effet, on considère en général qu'ils ne répondent pas aux critères de la Convention de Genève de 1951, pour qui les réfugiés sont des personnes qui fuient la violence ou la persécution. Cela étant, résumer ces migrations au seul paramètre écologique est réducteur. Les causes sont souvent multiples, on l'a vu, et font intervenir à la fois des facteurs économiques et sociaux. De ce fait, aucune grande organisation internationale, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ne dispose d'un mandat officiel pour assister ces individus. Par ailleurs, les réfugiés climatiques sont principalement des déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Ils resteront sous la juridiction de ce pays qui devra s'adapter à cette nouvelle situation. Et ce, si possible, en pouvant s'appuyer sur une convention internationale. Le 16 décembre 2009, à Copenhague, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a prévenu lors d'une conférence de presse que la distinction entre réfugiés et migrants se brouillait, ce qui pourrait entraîner une insuffisance dans le domaine de la protection, pour des personnes n'ayant d'autre choix que de quitter leur pays d'origine, devenu inhabitable, et qui ne satisfont pas à la définition strictement juridique de qui est un réfugié. Le besoin de nouveaux instruments juridiques pourrait apparaître et nous pourrions étudier l'idée de mécanismes temporaires de protection, a-t-il indiqué. Ce type de mécanisme est déjà appliqué dans de nombreux pays, accordant la protection pour des raisons humanitaires, jusqu'à ce que les conditions pour leur retour s'améliorent. Il a ajouté que les catastrophes naturelles sont de plus en plus intenses et plus fréquentes et que les impacts sont plus dévastateurs sur les populations. Il a affirmé que la fréquence des sécheresses augmentait régulièrement et que des communautés entières devaient s'adapter à de nouvelles conditions de vie, alors que la hausse du niveau de la mer menace d'engloutir les États insulaires. Une prise de conscience au niveau international est cependant en marche. Le Parlement belge a voté en 2007 une résolution demandant que la délégation belge aux Nations Unies pousse à la reconnaissance internationale du statut de réfugié environnemental. Et ouais, c'est qu'ils ont les Pays-Bas pas loin, eux. Des résolutions similaires ont été déposées au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Une réflexion s'est amorcée au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés sur une éventuelle révision de la Convention de Genève de 1951. En Australie, une proposition de loi a été introduite par le Parti écologiste demandant la création d'une nouvelle catégorie de visa. Mais le problème revêt de multiples facettes et le haut-commissaire des Nations Unies s'inquiétait en 2009 du lien croissant entre le changement climatique et le conflit et d'ajouter « les changements climatiques peuvent mettre l'accent sur la compétition pour les ressources, l'eau potable, la nourriture, les pâturages, et cette compétition peut provoquer le conflit ». Il a cité à l'appui une étude effectuée par des chercheurs des universités américaines de Berkeley, Stanford, New York et Harvard, ayant déterminé que les changements climatiques pourraient accroître le risque de guerre civile en Afrique de plus de 50% en 2030, en comparaison à 1990. De plus en plus de personnes sont forcées de fuir, a-t-il ajouté. Pourtant, de moins en moins bénéficient de la liberté de mouvement. Les pays sont devenus des forteresses à un moment où il convient d'animer les marchés. Bien oui, vous avez bien entendu, animer les marchés. Ben, c'est un mec qui bosse aux Nations Unies tout de même. Hein. Il est philanthrope, mais pragmatique avant tout. On le voit, la route vers l'adoption d'une convention internationale risque d'être longue. Car reconnaître que certaines personnes sont des réfugiés climatiques implique que l'on reconnaît une responsabilité et des responsables, ce qui induit des engagements financiers et humains importants sur le long terme. On comprend bien, encore une fois, que ce n'est pas l'humain ni l'environnement qui priment. Et la plupart des pays freinent des quatre fers pour adopter des mesures restreignant leurs émissions de gaz à effet de serre, malgré des prévisions scientifiques qui vont au-delà du pessimisme. Mais bon, voilà, ce n'est pas le bon moment pour évoquer clairement le problème, ni en Europe, ni aux États-Unis, surtout que compte tenu de la responsabilité historique des pays du Nord dans le changement climatique, beaucoup d'ONG et d'organisations internationales réclament un engagement fort des gouvernements occidentaux, et que ces gouvernements préfèrent faire la sourde oreille. Parce qu'un géant pétrolier ne se refuse jamais un coup de peinture verte à pas cher, voilà ce que l'on peut trouver sur le site planeteenergie.com, une initiative du groupe Total, qui eux trouvent que finalement, ben, ça avance pas si mal, hein, la lutte contre le réchauffement climatique. Et de titrer « Réchauffement climatique, la réponse des États ». Pour lutter contre le réchauffement climatique, les États s'appuient sur des scénarios scientifiques qui décrivent les évolutions possibles du climat. Depuis les années 1990, plusieurs sommets internationaux leur ont permis de travailler dans le sens d'une réponse concertée au changement climatique. Les engagements des États se traduisent ensuite par des mesures concrètes appliquées à l'échelle régionale ou nationale. Avant de préciser que les estimations des chercheurs sont précieuses pour les décideurs politiques et économiques, elles les aident à orienter la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, étant donné la complexité des phénomènes climatiques, il existe un certain risque d'erreur d'interprétation des données scientifiques qui amène à considérer ces prévisions avec prudence. Attention, ou peu là, on ne bouge plus, ceci est un hold-up de la pensée. Bah oui, si même les scientifiques se gourrent dans une science aussi populaire que celle de prédire le temps qu'il fera, bah, on va peut-être continuer à rouler en bagnole, hein. Des fois qu'à force, on trouverait un gaz super cool coincé dans le permafrost qui se libérera pour permettre aux consommateurs du monde entier de rouler encore plus, plus vite et plus longtemps, aux usines de fonctionner à plein régime et aux chômeurs de travailler. Si, si, si! Et voilà, c'est ça les opérations de lobbying. Ça laisse pantois. Hein. Mais revenons à Tuvalu. Tuvalu est donc le premier pays dont les habitants ont dû être évacués en raison de la montée du niveau des mers. Près de 3000 personnes ont déjà quitté leurs terres sur les 11 000 à venir. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a mis en place une politique d'immigration appelée Pacific Access Category ou PAC, dans le cadre de laquelle 75 habitants émigrent vers la Nouvelle-Zélande chaque année. Au terme de l'accord de la PAC sur l'immigration conclu en 2001 entre les gouvernements de Tuvalu, Fidji, Kiribati, Tonga et la Nouvelle-Zélande, les personnes exilées en raison du changement climatique peuvent se réfugier dans des environnements moins vulnérables. Chaque pays s'est donc vu accorder un quota annuel de personnes pouvant être accueillies en Nouvelle-Zélande. Le PAC limite le nombre à 75 habitants pour Tuvalu et Kiribati, alors que Tonga et Fidji disposent d'un quota de 250 habitants. À la suite du refus du gouvernement australien d'accepter des éco-réfugiés de Tuvalu, la Nouvelle-Zélande a en revanche accepté d'accueillir ses 11 000 habitants. Bien que les politiques d'immigration de la Nouvelle-Zélande soient bien plus conciliantes envers les éco-réfugiés qu'en Australie, les insulaires du Pacifique demeurent confrontés à des obstacles sur la voie d'une terre plus sûre. Les candidats prioritaires à l'immigration doivent satisfaire l'ensemble des critères définis dans le cadre de la PAC avant de pouvoir être retenus. Les critères appliqués ont pour effet d'exclure une partie de la population de Tuvalu, puisque les candidats doivent, alors là, attention, portrait du genre idéal, être ressortissants de Kiribati, Tuvalu, Tonga ou Fidji. Ok. Avoir entre 18 et 45 ans. Ok. Avoir une offre d'emploi acceptable en Nouvelle-Zélande. Ah, ça se complique. Avoir un niveau minimal d'anglais. Yes, of course. Et avoir un revenu minimal si le candidat a des personnes à charge. Et ne pas avoir résidé illégalement en Nouvelle-Zélande depuis le 1er janvier 2002. En résumé, cela signifie que les personnes âgées et les pauvres, les plus vulnérables, sont mises à l'écart de la PAC. De plus, on entend par « offre d'emploi acceptable » un poste à temps complet, véritable, payé à la semaine ou au mois. Étant donné la situation géographique et les conditions d'accès aux ressources nécessaires, les habitants de Tuvalu pourraient avoir des difficultés à trouver un emploi en Nouvelle-Zélande, avant même d'arriver dans le pays de surcroît. Ce qui, par conséquent, les exclut de ce programme d'immigration. C'est bien de l'immigration choisie, donc, hein ? Ok pour accueillir les classes moyennes et les plus riches, mais les pauvres, les malades et les plus âgés, hein, ils peuvent crever sous l'eau. Et pendant ce temps-là, la mer monte. Et la glace fond. Enfin, plus précisément, le permafrost. Le terme permafrost désigne la couche de glace permanente ancrée dans le sol sur plusieurs mètres de profondeur qui ne dégèle jamais en théorie, même pas en été. Dure comme la pierre, cette couche épaisse glacée présente dans la terre sur une majeure partie du Grand Nord enserre donc comme un étau tout ce qui y pousse. Bien sûr, les arbres ne poussent plus au-dessus d'une certaine latitude. Mais en Laponie, notamment, les forêts de pins sont très développées, ainsi qu'en Alaska et en Sibérie. Or, avec un réchauffement constant et bien trop rapide, et surtout des hivers polaires de moins en moins rigoureux et de plus en plus courts, cette couche de glace est en train de fondre inévitablement. La taïga, entre autres, et c'est avec elle que le phénomène est le plus impressionnant, est très touchée par la fonte du permafrost. Cela donne des images effrayantes, d'hectares entiers d'arbres couchés. En effet, les racines qui étaient bien accrochées dans la glace se retrouvent flottantes sous la terre et donc ne suffisent plus à maintenir l'arbre, qui se couche et meurt progressivement. Ce phénomène est appelé « drunken trees », traduisez « la forêt ivre », du fait que les arbres ne tiennent plus debout. Autre problème dû à la fonte du permafrost, c'est que cette glace vieille de milliers d'années retient des millions de tonnes de méthane, qui en fondant libère ce gaz dans des proportions évidemment très dangereuses. Plus près de nous, ce sont 12 000 mètres cubes de roches qui se sont détachés du Mont Blanc en 2011, dans la zone des Drus. Ce phénomène devrait s'accentuer dans les prochaines années car la température moyenne a augmenté de 2,6 degrés Celsius en l'espace de 75 ans dans les Alpes. Et ce réchauffement a un effet direct sur la roche. À ces très hautes altitudes, en général au-dessus de 2500 mètres, 3400 mètres dans le cas cité, la température reste en dessous de zéro tout au long de l'année. Dans ces conditions, l'eau qui s'infiltre dans la roche sert de ciment, stabilisant ainsi la montagne. En période de réchauffement, la glace disparaît et la roche n'est plus maintenue, entraînant de spectaculaires détachements de montagnes, comme on l'a vu dernièrement. Ainsi, en 2005, ce furent 265 000 mètres cubes de roche qui se sont détachés de la même face des Drus. À souligner que cet éboulement spectaculaire fait partie des 182 éboulements qui ont été recensés depuis 2007. Le réchauffement de la planète va accentuer les phénomènes climatiques extrêmes comme les ouragans et les sécheresses. Ainsi, en Chine, le désert de Gobi gagne plus de 10 000 km² chaque année. Un phénomène qui se retrouve aussi au Maroc, en Tunisie et en Libye. Quant à l'exceptionnelle saison cyclonique qui a ravagé le golfe du Mexique en 2005, elle pourrait bien préfigurer ce qui sera la norme du 21e siècle. Une série de catastrophes. Si les pays du sud, proches de l'équateur, seront les plus durement touchés dans un premier temps, les pays du nord ne seront pas épargnés. L'ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans en 2005 l'a prouvé. On évalue aujourd'hui à 25 millions le nombre d'éco-réfugiés. Les Nations Unies viennent de rappeler qu'à l'horizon 2020, demain donc, on comptera au minimum 50 millions de réfugiés environnementaux. Le spécialiste britannique de l'environnement Norman Myers avance pour 2050 le chiffre de 150 millions de migrants imputables au réchauffement climatique, soit environ 1,5% de la population mondiale à cette époque. Bon, ce sont des estimations, mais vu comment c'est parti, le réchauffement climatique risque de pousser chaque année 6 millions de personnes à quitter leur lieu de vie, dont la moitié à cause de catastrophes naturelles, a déclaré le 8 décembre 2009 le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et vu la stupéfiante mascarade que sont les conférences, sommets, Grenelle et autres rassemblements internationaux pour sauver la Terre, les estimations les plus ahurissantes ne sont pas à prendre à la légère. En 1896 déjà, le chimiste Svante Arrhenius remarqua que le dioxyde de carbone dans l'air absorbe l'énergie de la lumière solaire et agit ainsi comme une couche gazeuse protégeant la Terre du froid. Quelques années plus tard, il se rendit compte que le CO2 issu de la combustion de carburant allait réchauffer la planète.
puisque plus de chaleur est absorbée qu'il en est réfléchi. Et si on continuait à utiliser le charbon et le pétrole au rythme de 1908, selon les calculs d'Arrhenius, l'humanité serait carbonisée d'ici 3000 ans. Lui basait ses calculs d'après la consommation d'hydrocarbures de 1908. Imaginez aujourd'hui, avec la consommation exponentielle que nous avons, nous pouvons ramener cette échelle de 3000 ans à 100 ans, 200 ans.
Et pendant ce temps-là, la température monte. Et si vous voulez savoir si votre lieu de vie sera encore au sec, si les prévisions des climatologues se réalisent, allez voir cette carte interactive conçue à partir de Google Maps qui vous permet de simuler les conséquences de la montée des eaux de 1 à 14 mètres dans votre région, en tapant Sea Level Rise dans le célèbre moteur de recherche. Les sources de cette émission. Des extraits de l'article sur le hockey sur glace paru sur le site MaxiScience en mars 2012, un article sur le réchauffement climatique paru sur le site de Le Point en mars 2012 également, un article du Monde écrit par Pierre Barthélémy en décembre 2005 et mis en ligne sur leur site, des extraits du site www.goodplanet.info sur les réfugiés climatiques, Wikipédia, des extraits de l'article écrit par Melissa Fleming après le sommet de Copenhague, paru sur le site www.unhcr.fr, un extrait de l'article paru sur planetenergie.com, le fameux site du groupe Total, des extraits des chroniques de l'ONU et des Amis de la Terre paru sur le site www.safecom.org, des extraits du site Projet Arctique paru en juillet 2012 et des extraits de l'article Le réchauffement climatique fragilise la montagne par Charles Magnier paru en septembre 2011. Et enfin, le site pour voir le niveau de la mer dans quelques années sur float.firetree.net. Et pendant ce temps-là,
avec Radio Girafe, prend de la hauteur.